Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Ok. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 16. C'est un passage très important que Jésus-Christ nous donne. Dans le livre de Matthieu 16, on va ouvrir nos Bibles et à partir du verset 13. Et ce verset nous dit ceci, Matthieu 16, verset 13. Pour nous situer dans le contexte de ce passage, les disciples viennent d'arriver d'une croisade. Ils viennent d'arriver d'une croisade et là, Jésus-Christ, ils sont tout heureux de dire à Jésus, « Ouais, voilà, nous avons vu les démons sortir des corps, nous avons chassé les démons. Les gens disent que tu es le prophète Élie, d'autres disent que tu es le prophète Jérémie, etc. » Et là, maintenant, Jésus-Christ va leur poser une question très importante et la réponse va donner lieu à notre message aujourd'hui. Matthieu 16, verset 13, il est écrit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous ?» leur répondit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. La version parole vivante du verset 18 dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. » Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Ça, c'est quelque chose que tous les croyants, tous les chrétiens sont capables, enfin, doivent être conscients de ça. Ils sont tous capables de faire cela. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une série qui va nous accompagner, je crois, jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'au séminaire, une série intitulée « Les clés du royaume ». Est-ce qu'on peut dire ensemble « Les clés du royaume » ? Les clés du royaume. Et aujourd'hui, on va d'abord essayer de comprendre le rôle des clés du royaume, leur but et leur rôle. Les clés du royaume, c'est un message très important. C'est une parole très importante. Pourquoi c'est une parole qui est très importante? Parce que La plupart des croyants, la plupart des chrétiens n'ont pas compris ça. Le message que je vais donner là, pourquoi c'est un message qui est très important? Parce que c'est le message qui est capable de débloquer ta vie en fait. Je t'assure. Le jour où tu comprends ça, ta vie est totalement transformée. Les clés du royaume. Ok, allons-y. Dans chaque nation, dans chaque pays, hein, dans chaque nation, dans chaque pays, il y a des lois. Ok? Il y a des lois, il y a des coutumes, il y a des règles qui font fonctionner la société. D'accord? Et ces règles sont régies par ce qu'on a, par un document qu'on appelle la Constitution. Ok? La Constitution. Et la Constitution est un document qui est un document qui nous garantit un cadre juridique. D'accord? Un cadre juridique qui permet, un cadre juridique qui encadre le comportement social entre les membres de la société et le gouvernement. C'est pour cela que la Constitution est très importante et c'est pour cela que la Constitution, on ne peut pas la modifier n'importe comment. D'accord? Parce que la Constitution est le lien qu'il y a entre les citoyens et le gouvernement qui est en place. Et c'est elle qui garantit ce cadre juridique-là que nous tous, nous devons respecter. Donc, dans chaque pays, il y a des lois. Dans chaque pays, il y a des règles. Il y a une réglementation que nous devons tous respecter. Ce cadre, que je peux appeler un cadre légal, hein, ce cadre légal qui est régi par la Constitution crée ce qu'on appelle une culture juridique, une culture de loi. Ok? Elle crée une culture de loi. Elle crée une culture de loi et de principes qui nous servent non seulement de réglementation, mais aussi de valeurs et de standards. D'accord? Et cette Constitution qui régit les relations entre les citoyens et le gouvernement, cette Constitution donne un cadre, et ce cadre de loi et de principes, c'est ce que Jésus-Christ appelle dans le royaume les clés du royaume. Vous me suivez? Bon, c'est pas facile ce que je vais dire, mais je vais essayer d'y arriver. Toutes les nations, tous les royaumes possèdent des lois. Et toutes ces lois, les citoyens qui vivent dans le royaume ont validé ces lois. Ils ont validé ces lois. Ils ont accepté ces lois et ils se soumettent à ces lois. Et ces lois et ces principes, c'est ce que Jésus-Christ appelle les clés du royaume. Les clés du royaume. Est-ce qu'on peut dire avec moi les clés du royaume? Les clés du royaume. Je vais vous donner une image. Avoir une clé ou avoir un trousseau de clés sans pouvoir identifier à quelle serrure elle appartient, ça ne sert à rien. Okay. Ça ne sert à rien. Ne pas savoir à quoi correspond la clé, ne pas savoir à quoi sert une clé, c'est comme si tu n'avais pas de clé. D'accord? C'est comme si tu n'avais pas de clé. Ça nous est déjà tous arrivé d'avoir un trousseau de clés qu'on retrouve à la maison. Et puis, il y a plein de clés dessus, mais on ne sait pas du tout à quoi servent ces clés. Qu'est-ce qu'elles ouvrent, ces clés? On ne sait pas. Et on commence à essayer les clés dans toutes les serrures de la maison et on ne trouve pas les serrures qui vont avec. D'accord? Donc, ces clés, c'est comme si on n'avait pas de clés. Mais pourtant, ces clés servent à quelque chose. Ces clés ouvrent des portes. D'accord? Ces clés ouvrent des portes dans la maison. Mais on ne sait pas quelle porte elles ouvrent. Et si on ne sait pas à quoi servent les clés que nous possédons, il n'y a rien de plus décevant en fait. Il n'y a rien de plus décevant. Et c'est exactement le même problème dans lequel la plupart des chrétiens sont. Jusqu'à vendredi soir, je ne savais pas ce qu'on allait partager. Et la question que je suis allé poser au Seigneur, c'est pas « Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire dimanche ?» C'est pas ça. C'est que moi aussi, je traverse aussi des challenges. Moi aussi, j'ai des défis à relever. Donc, en regardant déjà ma propre situation, j'ai dit au Seigneur, « Bon Seigneur, c'est quoi la solution en fait pour débloquer ma situation là ?» Parce que là, j'ai une situation à résoudre. J'ai une situation à résoudre. Nous avons besoin de plus de ressources pour organiser le séminaire. Nous avons besoin de ceci et de cela à la maison, etc. J'ai besoin de ceci et de cela dans mes entreprises et autres. C'est quoi la solution à mon problème? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et là, je reçois une pensée. Le problème, Luc, c'est que tu ignores les clés. Quelles clés utiliser? Je dis, comment quelles clés utiliser? Tu ignores quelles clés utiliser. Tu possèdes des clés, mais tu ne sais pas les utiliser. J'ai dit, je ne sais pas utiliser les clés. De quelles clés tu parles, Seigneur? Il dit, mais les clés du royaume, Luc. Jésus-Christ ne t'a pas donné les clés du royaume. Et là, tout de suite, Matthieu 16, verset 18, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sera lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sera délié dans les cieux. J'ai dit, oh, il y a quelque chose que je n'ai pas compris là. Le Saint-Esprit me dit, mais Luc, c'est ça le problème de mes enfants aujourd'hui. Mes enfants souffrent inutilement. Le problème de mes enfants, c'est qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas instruits. Le problème de mes enfants, c'est qu'ils possèdent des clés, mais ils ne savent pas les utiliser pour pouvoir débloquer leur situation. J'ai dit, ok, donc là, je vais aller chercher. Et c'est exactement le genre de problème que la plupart des croyants ont. Les croyants, les chrétiens, ceux qui sont en Christ, possèdent des clés. Jésus-Christ nous a déjà donné des clés. Il nous a déjà donné des clés. C'est le passage qu'on vient de lire et on va l'approfondir plus loin. Et en fait, nous les croyants, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu qui sommes en Christ, nous sommes des personnes qui avons des trousseaux de clés entre nos mains. Mais nous ne savons pas comment les utiliser. Et quelles sont ces clés? C'est quoi ces clés que nous possédons? Eh bien, le Seigneur nous montre que ces clés, ce sont ce qu'on appelle, nous, communément, les versets bibliques. Les versets bibliques. Chaque verset dans la Bible est une clé potentielle. Chaque verset dans la Bible est une clé. Tu as juste à chercher et à trouver la clé ou le verset que tu dois appliquer à ta situation et l'activer pour ta situation. N'oubliez pas un principe extrêmement important que tout enfant de Dieu doit connaître, c'est que tout est spirituel. Tout est spirituel. Et le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils passent plus leur temps à marcher selon la vue que de marcher avec l'esprit. Ils passent plus leur temps à se fier et à se confier dans les apparences qu'à se confier qu'à regarder au spirituel. Le juste vivra et marchera par la foi et non par la vue. Et le Seigneur me disait, Luc, tout est spirituel. Quand tu vois ta situation, quand tu vois la situation par laquelle tu es en train de passer, la situation est difficile. Tu es là, tu dis, mais pourquoi je galère comme ça? Pourquoi la situation ne se débloque pas? Pourquoi malgré tous mes efforts, la porte ne s'ouvre pas? Le Seigneur me répond, Luc, c'est parce que tu n'as pas utilisé la bonne clé. Il trouve la clé et débloque ta situation. Tout est spirituel. Quand tu vois la situation par laquelle tu es en train de passer, c'est parce que tout simplement au niveau spirituel, tu es dans la même situation. Et tu n'as pas débloqué au niveau spirituel. Est-ce qu'on me suit? Ça là, c'est une bombe. Et ça c'est ce que Jésus-Christ est en train d'enseigner à ses disciples. C'est ce que Jésus-Christ est en train de révéler en Matthieu 16 à ses disciples quand il dit je vous donne désormais les clés. Désormais vous avez la capacité de lier sur la terre et c'est lié dans les cieux, de délier sur la terre et c'est délié dans les cieux, de permettre sur la terre et de permettre dans les cieux. Tout ce que tu permets sur la terre. Quand tu poses un acte, quand tu pêches, quand tu poses un acte grave, ou même bien pour ta propre vie, automatiquement, il y a un retour au niveau spirituel qui se passe. Automatiquement, au niveau spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Plutôt, quand tu poses un acte au niveau spirituel, automatiquement, dans le naturel, il y a quelque chose également qui se passe. Est-ce qu'on me suit? Donc, les versets bibliques sont des clés potentielles. Chaque verset biblique est une clé potentielle pour ta vie. Chaque verset. Et c'est pour cela que nous devons, nous les enfants de Dieu, apprendre à méditer la parole de Dieu. Les clés ou encore les versets bibliques, ce ne sont ni plus ni moins que des informations que Dieu nous donne. Une clé, c'est une information. Quand tu ouvres ta Bible et que tu lis la Bible, c'est une information, n'est-ce pas? C'est une information. Ce sont des informations que tu, comment dire, accumules dans ton esprit. Le problème maintenant, c'est que toutes ces informations-là, au bout d'un certain temps, tu es débordé d'informations. Tu es débordé de messages. Tu es débordé de versets bibliques. Mais le problème que Dieu a avec toi, c'est que tu ne comprends pas. C'est que tu ne comprends pas. Tu ne demandes pas au Saint-Esprit de t'expliquer. Et c'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent à s'ennuyer quand ils lisent la Bible. Parce que tout simplement, ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit qui explique la Bible, qui explique l'utilisation des clés et qui te permet de les utiliser. Avoir des informations capitales entre tes mains, sans savoir comment les mettre à profit pour ta propre vie, c'est comme avoir une quantité importante de puissance entre les mains et ne pas savoir comment la libérer. Est-ce que vous me suivez? C'est comme avoir quelque chose de puissant entre les mains, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Tu ne sais pas comment l'utiliser. Lorsque tu as un ordinateur entre les mains, admettons que tu as un Mac entre les mains, le Mac, il vaut à peu près en euros, à peu près un MacBook Pro, à peu près, vaut à peu près entre 1000 et 1500 euros, à peu près 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. Une machine qui vaut 1 million de francs CFA, c'est une machine très puissante. C'est une machine qui peut faire beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens achètent des machines aussi chères, mais ils n'utilisent que les applications basiques. Alors que la machine peut faire beaucoup de choses. Tu vois? Donc, quand tu commences à t'instruire sur l'utilisation de la machine et que tu commences à l'utiliser à son plein potentiel, tu te rends compte que tu peux faire beaucoup de choses avec la machine. Beaucoup de choses qui te facilite la vie. Et c'est exactement le même principe pour les clés. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de clés entre les mains au travers de la parole que Dieu a mise à notre disposition. Et si nous développons notre connaissance de ces clés, si nous développons notre instruction concernant l'utilisation de ces clés, l'utilisation des versets bibliques et que nous les appliquons à notre propre vie, je vous assure, tout est spirituel. Et parce que tout est spirituel, ta vie peut être changée de façon très radicale. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne croient pas. C'est qu'ils n'acceptent pas. Et c'est très important qu'un croyant, qu'un enfant de Dieu connaisse la Bible. La Bible, pourquoi c'est important de la connaître? Pourquoi Dieu nous demande de la connaître? Parce que Dieu dit que la formule du succès est dans la Bible. Tout ce qui te permettra de réussir, tout ce qui te permettra d'avancer, d'aller de l'avant et d'être épanoui dans la vie, se trouve dans la parole. C'est pour ça que la parole, la Bible, n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre qu'on lit non seulement avec l'esprit, mais tout en étant en communion avec l'enseignant des enseignants, le Saint-Esprit. Dieu nous dit dans Josué, chapitre 1, verset 8, Dieu nous dit ceci. Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce qu'on peut dire ensemble que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors, est-ce qu'on peut dire car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu vient de donner ici, dans ce passage-là, Dieu vient de donner l'un des versets, ou encore l'une des clés les plus importantes de la Bible, mais pourtant, l'un des versets, l'une des clés les moins considérées par les enfants de Dieu. Je t'assure que tu n'as même pas besoin de lire toute la Bible. Juste ce verset-là te suffit à comprendre que la clé de ton bonheur, c'est ça en fait. La clé de ton bonheur est là. Il dit que ce livre de la loi, ce verset, ce passage, nous révèle quatre choses très importantes. Premièrement, ce passage nous révèle que tu dois considérer la Bible comme un livre juridique dans lequel sont contenues tes droits et tes privilèges. C'est pour ça que Dieu appelle la Bible ce livre de la loi. Il ne lit pas juste que ce livre. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu considèrent la Bible juste comme un livre ordinaire. Dieu dit que ce n'est pas un livre ordinaire, c'est le livre de la loi du royaume. Et dans ce livre de la loi du royaume sont contenus tes droits et tes privilèges. Si en tant qu'enfant de Dieu, tu veux connaître tes droits, parce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, viens et plaidons. Viens et plaidons. Défends ta cause. Plaide. Plaide, c'est un terme juridique utilisé par les avocats. Un avocat plaide pour un accusé devant le tribunal. Et Dieu dit, viens et plaidons. Mais tu plaides avec quoi? Quand un avocat plaide, il plaide avec le livre de la loi. Il se base sur la loi pour défendre son cas. Et quand Dieu dit, viens et plaidons, il est en train de dire, c'est dans le livre de Josué, que ce livre de la loi, qui est le livre juridique dans lequel sont contenus tes droits et tes privilèges, te serve d'arme, te serve de support pour pouvoir défendre ta cause devant moi. Par exemple, quand les enfants de Dieu prient, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils les voient prier, ils prient en désordre. Ils prient, ils racontent n'importe quoi. Oh, papa ceci, papa cela. Ils racontent leur prière, n'est même pas structurée. On ne comprend rien du tout. Alors que quand tu te bases sur le livre de la loi, tu ne peux pas prier en désordre. Tu prends la parole, tu prends les clés, tu prends les principes et tu mets ça devant le trône et tu dis, Seigneur, voici mes droits. Voici mon droit. Tu es malade. Tu es malade. Quelqu'un est malade. Il veut la guérison. Mais il passe son temps à supplier. Oui, il faut supplier Dieu pour que Dieu t'accorde la miséricorde et sa grâce pour qu'il te guérisse. Mais au bout d'un certain, mais il y a aussi des fois où tu dois te lever et dire, Seigneur, dans mon héritage, en Christ, il y a la guérison. Alors, je mérite la guérison. Je ne dois pas être malade. Être malade dans ma vie de chrétien, ce n'est pas normal. Parce que la guérison est en Christ. La bonne santé est en Christ. Est-ce qu'on me suit? Considère la Bible comme le livre juridique dans lequel sont contenus tes droits et tes privilèges. Ça, c'est la première chose que Josué 1.8 nous révèle. La deuxième chose que Josué 1.8 nous révèle, c'est que Dieu dit, médite ce livre juridique jour et nuit. Médite-le. Quand Dieu dit « médite-le », Dieu n'utilise pas ce mot par hasard. Chaque fois que tu lis la Bible et que tu entends Dieu parler, sache, lis bien les mots que Dieu utilise. Dieu n'utilise pas n'importe quel mot. Dieu, c'est un poids lourd. Donc, les mots qu'il utilise sont des mots lourds. Sont des mots qui ont tout leur sens. Et quand Dieu dit « médite », médite, ça veut dire quoi? Médite, ça veut dire « étudie-le », « maîtrise-le ». Dieu est en train de dire ici « connais tes droits. Il n'y a pas plus en danger qu'un citoyen qui ne connaît pas ses droits. Quand on comprend la parole, il n'y a pas plus en danger qu'un citoyen qui ne connaît pas ses droits. Et aujourd'hui, le monde est rempli de citoyens du royaume qui ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. C'est pour ça que Satan les dribble dans tous les sens. C'est pour ça qu'ils souffrent. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Et Dieu dit, médite le livre juridique, le livre de la loi. Parce que c'est dans ce livre que sont contenus tes droits. Et quand tu connais tes droits, tu pries plus n'importe comment. La troisième chose que ce passage nous révèle, que Dieu nous révèle ici, Dieu dit, agis selon ce qui est écrit et applique les lois que tu trouveras dedans à ta propre vie. La loi n'existe que pour une chose, pour garantir, un, ta sécurité, deux, ton bonheur. La loi existe pour garantir ta sécurité et ton bonheur. La loi n'est pas mauvaise. Quand l'État met en place des lois, c'est pour le bonheur des citoyens, c'est pour le bien-être des citoyens, c'est pour la sécurité des citoyens. Donc, quand Dieu dit « agis selon ce qui est écrit dans le livre de la loi », il est en train de dire « quand tu feras cela, tu seras en sécurité et tu prospéreras ». Et quatrième point, il dit « c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises ». Tu auras du succès et tu réussiras. Waouh ! C'est-à-dire, Dieu n'utilise pas n'importe quel mot. Pourquoi Dieu dit « tu réussiras » ? Mais parce qu'on veut tous réussir. On veut tous réussir. Dieu dit, si tu appliques les clés, les lois, les principes qui sont dans ce livre, tu les appliques à ta propre vie, tu réussiras. Tu ne peux pas échouer. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans leur vie parce qu'ils n'appliquent pas les principes et les clés juridiques qui sont contenues dans le livre de la loi. Et c'est pour cela que Dieu dit, ne te détourne pas de ce livre. Médite-le jour et nuit. Pour vivre une vie chrétienne efficace comme Jésus nous l'a montré, il faut avoir la mentalité du royaume. Pour pouvoir appliquer ce qui est écrit dans la Bible, il faut avoir la mentalité du royaume. Parce que toute la Bible ne parle que de royaume. La Bible ne nous parle pas de démocratie. La Bible ne nous parle pas de religion. La Bible nous parle d'un royaume que Dieu nous a donné. Mais si tu veux vivre ce royaume, si tu veux vivre les bienfaits de ce royaume, si tu veux comprendre comment fonctionne ce royaume, tu dois acquérir la mentalité du royaume. Est-ce qu'on me suit? La vie dans le royaume consiste à revenir à quelque chose de très important, à l'autorité divine du gouvernement sur la terre et à apprendre comment vivre et opérer dans cette autorité. Tout enfant de Dieu, nous avons une autorité. Tout enfant de Dieu, nous avons des droits. Tout enfant de Dieu, nous avons des privilèges. Et tant que tu n'acquiers pas la mentalité du royaume, tu ne peux pas opérer dans ce royaume. Est-ce qu'on me suit? Malheureusement, la plupart des croyants ont plus une mentalité religieuse qu'une mentalité de roi. Quand on me demande, tu es dans quelle religion? Je dis aucune. On me demande, tu es dans quelle religion? Je dis aucune. Cette semaine, j'étais en train de passer à la radio, sur une radio, et puis, il y a quelqu'un qui appelle et qui me demande, Monsieur Ondias, est-ce que vous êtes chrétien? Et je lui ai répondu, oui, je suis en Christ. En fait, il n'a pas compris ma réponse, en fait. Je ne lui ai pas répondu, je suis chrétien. Non, ce n'est pas ce que j'ai répondu. J'ai dit, je suis en Christ. Parce que la Bible ne dit pas que je suis chrétien. La Bible dit que je suis en Christ. Parce que si je lui réponds, je suis chrétien, tous les chrétiens qui sont en train de m'écouter à la radio, il y en a qui sont chrétiens catholiques, d'autres sont chrétiens protestants, d'autres sont chrétiens orthodoxes, d'autres sont chrétiens pentecôtistes. Enfin, si je dis je suis chrétien, on ne me retrouve pas. Je préfère dire je suis en Christ parce que c'est ce que je suis. En Christ, selon la parole de Dieu. Et quand tu dis je suis en Christ, tu mets tout le monde d'accord. Tu fais comprendre que je ne suis pas dans une religion, moi. Quand tu me dis, est-ce que vous êtes chrétien? Quelqu'un me peut dire, mais tu es de quel bord religieux? Tu es de quel christianisme? Parce qu'il y a plusieurs courants. Et moi, je dis, non, je suis en Christ. Pourquoi? Parce que être en Christ, ce n'est pas être dans une religion, mais être dans un royaume. Appelé le royaume de Christ. Et être citoyen du royaume de Christ, être en Christ, consiste à une chose très importante que nous développons ici aujourd'hui, c'est savoir utiliser les clés du royaume. Un citoyen qui sait utiliser, qui connaît ses droits et qui connaît ses privilèges, saura utiliser les clés pour débloquer la situation dans sa vie. Tu es là, tu traverses une situation et tu connais la clé. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la clé et tu ouvres la porte. C'est tout. Comment est-ce qu'on utilise les clés? Comment est-ce qu'on utilise ces informations? Ah, ça, on va le voir plus loin. Le royaume des cieux est ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas donné une religion. On a vu ça ici pendant des semaines. Dieu ne nous a pas donné une religion. Si tu es dans la religion, il faut sortir de la religion. Parce que ce n'est pas dans une religion que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois dans le royaume. Dieu ne nous a pas donné une religion, mais un royaume. Et si tu n'acquiers pas la mentalité du royaume, tu ne pourras pas t'épanouir dans ce royaume. Dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 32, Il est écrit ceci. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Il n'a pas trouvé bon de vous donner une religion. Parce que Dieu n'a pas créé une religion. Dieu nous a donné un royaume. Le royaume, il est à nous. Ah, ça. Le royaume est à nous. C'est notre héritage en Christ. Jésus-Christ est mort pourquoi? Jésus-Christ est mort pour notre royaume, pour le royaume. Jésus-Christ est mort parce que nous avions perdu le royaume. Nous avons perdu le royaume quand? Nous avons perdu le royaume en Éden, quand Satan a amené Adam, notre grand frère, à désobéir. Et quand Adam a désobéi, il a perdu ce royaume. Il a perdu un gouvernement, il a perdu cette autorité. C'est ce que Adam a perdu et c'est ce que Jésus-Christ est venu récupérer. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour une religion. Jésus-Christ est venu mourir pour un royaume. Est-ce qu'on me suit? Et ce royaume, cet héritage que Dieu a trouvé bon de nous donner, nous le recevons quand? Nous le recevons quand nous naissons de nouveau. Lorsque nous décidons, lorsque nous prenons la décision de nous détourner de notre péché, de nous détourner de notre rébellion, de nous détourner de nos convoitises, de nous détourner de ce monde, et que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous expérimentons ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et quand nous naissons de nouveau, nous recevons automatiquement un héritage. Nous devenons enfants de Dieu, nous devenons fils de Dieu, et en tant que fils dans le royaume, en tant que citoyen du royaume, nous obtenons automatiquement des droits et des privilèges. Et nous recevons un héritage appelé le royaume. Est-ce qu'on me suit? Nous naissons de nouveau. Ça veut dire quoi? Nous sommes automatiquement naturalisés, citoyens du royaume des cieux. Et quand tu deviens citoyen du royaume des cieux, tu obtiens les droits et les privilèges que tout citoyen dans le royaume de Dieu a. Est-ce qu'on me suit? Dieu nous prend des ténèbres pour nous mettre dans la lumière. Dieu nous prend du monde pour nous faire rentrer dans le royaume. Et il nous dit dans le livre de Colossiens 1, verset 12, il nous dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Le mot « transporter » ici est un mot grec que l'on peut aussi traduire par « transférer ». Il nous a transférés. Il y a eu un transfert qui s'est fait quand tu es né de nouveau, en fait. Tu étais dans le monde et tu es venu dans le royaume de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. En tant que citoyens, nous avons des droits. Nous avons des privilèges. Nous avons des privilèges dans le royaume. Maintenant, comment nous approprier ces privilèges? Comment vivre ces privilèges? Comment pouvons-nous jouir pleinement de ces avantages, de ces droits? Eh bien, c'est très simple. En utilisant les clés. Les clés que la loi, que le livre de la loi, que Dieu lui-même met à notre disposition. C'est aussi simple que ça. On va revenir à notre passage. Lorsque Pierre répond à la question de Jésus, qui dit-on que je suis, tu es le Christ, tu es le Messie. Pierre utilise un mot qui est extrêmement dangereux pour l'époque. Parce que le mot Messie veut dire le roi qui est oint dans la foi juive de l'époque. Dans la foi juive, le mot Messie est un mot qui veut dire le roi qui est oint ou encore le sauveur d'Israël. Donc quand Pierre utilise ce mot, tout de suite, les autres, parce que quand Jésus-Christ a posé la question, personne n'a répondu. Hein. En fait, je pense que tous, ils avaient une idée, mais personne n'a osé dire que Jésus-Christ était le Messie. Non, là, on dit, tu es peut-être un prophète. Parce que regardez les réponses des autres. Qui dit-on que je suis? Les autres disent, le prophète Jérémie, le prophète Élie. Et en fait, pour eux, il n'y a qu'un prophète qui peut faire les choses comme ça. Mais le Messie, là, le Messie, c'est... C'est Dieu. Donc personne n'ose dire, personne n'a pensé à dire ça, parce que c'était tout simplement impensable que Jésus, le Messie, Dieu fait chair, venu sauver, qui vient sauver Israël, soit en face d'eux. Donc personne n'a pensé à ça. Mais Pierre, lui, il reçoit la révélation et il dit, tu es le Messie. Tu es le Messie. Et c'est un mot très dangereux. Et qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ, sur cette confession de foi de Pierre, sur cette déclaration de foi de Pierre, Jésus-Christ dit, je vais bâtir quelque chose d'extrêmement important. Il dit, sur cette parole, Pierre, je décide de bâtir mon église. Je décide de bâtir mon église. Le mot église vient d'un mot grec que l'on prononce ecclesia. Ok? Ecclesia. On l'avait vu il y a quelques semaines. Le mot ecclesia est un mot grec. Et malheureusement, le mot ecclesia traduit par, en français, église, est un mot qui est très très mal compris par la plupart des croyants, par la plupart des chrétiens. Très mal compris. La plupart des chrétiens, la plupart des enfants de Dieu pensent que le mot église est un mot religieux. Et t'assure, le jour où tu comprends ça, ta vie change totalement. Ta vie change parce que ta perception de la chose, ta perception de la parole, ta compréhension du royaume, ta compréhension de ta relation avec Dieu, tout change. Le mot église n'est pas un mot religieux. Le mot église, ecclesia, est un terme politique qui s'applique à un gouvernement. Et le mot ecclesia veut simplement dire ceux qui sont appelés. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui sont appelés. Le mot ecclesia, ou encore église, a été utilisé pour la toute première fois, pas par Jésus. Les gens pensent que le mot église a été utilisé pour la première fois par Jésus. Le mot église n'a pas été utilisé pour la première fois par Jésus. Le mot ecclesia, église, a été utilisé pour la première fois par les Grecs, avant la venue de Jésus. Et les Grecs n'avaient pas mis en application, la signification même de ce mot église. Ce sont les Romains qui arrivent après, par le biais de l'empereur César, qui récupèrent ce mot, ecclesia. Et César, qu'est-ce qu'il fait? César avait aussi une église. César avait aussi une ecclesia. Qu'est-ce que c'est que ecclesia? En fait, le mot ecclesia que les Grecs avaient créé, le mot église, désignait un terme que nous connaissons aujourd'hui très bien, que l'on prononce le Sénat. Le Sénat. Ou encore un groupe politique qui avait été choisi par le gouvernement. Le Sénat. Qu'est-ce que le Sénat? Pour définir rapidement ce qu'est le Sénat, dans nos démocraties modernes, le Sénat, c'est la chambre haute du Parlement. C'est le cabinet du gouvernement, le Sénat. Le Sénat est la chambre du gouvernement qui détient le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale. C'est le Sénat qui promulgue les lois votées par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Assemblée nationale est composée de parlementaires, les députés, etc. Ce sont des élus du peuple. Et ce sont les députés qui réfléchissent sur les lois. D'accord? Et quand les députés réfléchissent sur les lois, quand l'Assemblée nationale a réfléchi sur une loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vote la loi. Mais quand l'Assemblée nationale vote la loi n'est pas appliquée tout de suite. Il faut attendre que la loi soit présentée au Sénat. Et c'est le Sénat qui étudie la loi et qui a deux choix. Soit le Sénat valide la loi, et quand le Sénat valide la loi est automatiquement appliquée sur tout le territoire et intégrée à la Constitution, ou bien le Sénat rejette la loi en disant « cette loi n'est pas conforme à la Constitution, ou bien cette loi crée des problèmes, etc. » Et puis, il renvoie la loi devant l'Assemblée nationale et dit aux députés « réétudiez cette loi. » Amen. Je bâtirai mon ecclésia. Le Sénat est donc une ecclésia. Le Sénat est une ecclésia. Le Sénat est le cabinet du gouvernement. Le Sénat est un organe politique très puissant. Le Sénat est un organe politique extrêmement puissant. C'est une chambre haute très sélective dont les membres sont élus par les grands électeurs au suffrage universel. Et au temps des Romains, le Sénat était composé de personnes, de membres, qui étaient directement choisis par l'empereur César. Est-ce qu'on me suit ? Directement choisis par l'empereur César. Et qu'est-ce que les personnes qui composaient le Sénat, quel était leur rôle ? Leur rôle était de recevoir les pensées, les désirs, les passions du roi, les plans du roi pour la nation, et ils devaient réfléchir à des lois concernant ces pensées-là. Le roi pensait, le Sénat prenait les pensées et créait des lois. Voici le rôle du Sénat de l'époque. C'était leur travail. Donc le Sénat était un groupe de personnes très puissant, parce que c'était des gens qui étaient très proches du roi. C'était des gens qui parlaient avec le roi. C'est des gens qui écoutaient le roi en permanence. Ils étaient dans son intimité. Ils étaient choisis directement par l'empereur. Et si Jésus utilise le terme église, le terme ecclésia pour décrire l'ensemble de ses disciples, pour décrire l'ensemble de des membres du roi, des citoyens du royaume, de ses disciples, il le fait pour deux raisons. La première, c'est que le mot église est plus un terme politique que religieux. Ça, on l'a compris. Et la deuxième, c'est que l'attribution des clés, qui lit et délit là, vous lirez, vous délirez. L'attribution de ces clés là, n'est pas quelque chose de religieux, mais quelque chose de politique. Est-ce que vous me suivez? Le jour où on comprend ça, notre façon de dire la parole là, ça change. Hein? Jésus-Christ n'était pas un problème religieux. Jésus-Christ était un problème politique. Parce qu'il ne pouvait pas avoir deux rois sur le même territoire. Quand il dit « Je suis le roi », les Juifs lui ont répondu quoi au moment où ils voulaient le crucifier? « Nous n'avons qu'un seul roi, César. » Il a dit qu'il est le roi des Juifs. « Nous n'avons qu'un seul roi, César. » Est-ce qu'ils sont en train de parler de religion? Ils ne parlent pas de religion. Ils parlent d'un problème politique. De la même manière que César est seigneur de son gouvernement et qu'il a créé le Sénat, son ecclésia, son cabinet, moi aussi, Jésus, je bâtirai mon ecclésia, je bâtirai mon église, je bâtirai mon cabinet sur le fait que je suis le Christ, le roi oint, le Seigneur des seigneurs et le Fils du Dieu vivant. Moi aussi, je bâtis maintenant mon église. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sur ta confession, Pierre, sur ce que tu viens de dire, Pierre, je vais bâtir cette nouvelle force politique qui va bouleverser le monde. Je vais établir un gouvernement sur la base de ce groupe de personnes avec qui je vais commencer à appeler l'Ecclésia, appeler mon Sénat, appeler mon cabinet. Vous serez mes disciples, vous serez mes proches. Avec vous, je parlerai avec vous, je vous communiquerai mes pensées, etc., etc., etc. Le passage où Pierre dit, où Simon-Pierre dit, tu es le Christ, et Jésus-Christ déclare, Pierre, sur cette base, sur ta parole, je bâtirai mon église. En fait, entre guillemets, entre parenthèses, on venait d'assister à la nomination officielle du président du Sénat de Christ, Pierre. Pierre est le président du Sénat de Christ. Pierre est le chef de cabinet de Christ. Voici le rôle de Pierre. Qui est le président du Sénat dans une nation, dans une démocratie moderne? Le président du Sénat est quelqu'un de très important. Le président du Sénat est le numéro 2 de la nation. En cas d'absence du chef de l'État, qui prend l'intérim? C'est le président du Sénat. En cas d'incapacité d'exercice du pouvoir du chef de l'État, qui prend l'intérim? C'est le président du Sénat. Ce n'est pas le Premier ministre, ni le vice-président. C'est le président du Sénat. C'est le président du Sénat. Et Pierre était le président du Sénat qui avait été choisi par Jésus. Et quand j'ai encore approfondi, j'ai découvert que mais c'est à cause de ça que Pierre était aussi important pour Jésus. C'est à cause de ça que Jésus, quand il est ressuscité, Il sait que tous ses disciples ont perdu la foi. Il sait aussi que Pierre aussi a perdu la foi. Mais regardez, Jésus-Christ adresse une parole à Pierre qui est très importante. C'est dans le livre de Luc, chapitre 22, au verset 28 à 32. Regardez ce qu'il dit. Ils sont au moment du souper, dans la chambre haute. Et là, Jésus-Christ se tourne vers Pierre. Pierre dit, Seigneur, moi je veux mourir avec toi. Jésus-Christ dit, Pierre, je sais ce qui va arriver dans la suite. Et il dit, vous, il s'adresse d'abord à tout le monde, à ses membres aux membres de son ecclésia, aux membres de son sénat. Il s'adresse à eux et il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose de quoi? Du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Il a fini de dire ça. Il a parlé à tout le monde. Maintenant, il se tourne vers le numéro 2, le président du Sénat, le leader, le responsable de son cabinet, Pierre. Et il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour qui? Il dit, j'ai prié pour qui? Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi il dit j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point? Parce que si ta foi défaille, monsieur le numéro 2 président du Sénat, c'est tout le Sénat qui défaille. Si ta foi défaille, c'est tout le Sénat qui défaille. Pierre. Et il dit quand tu seras converti, quand tu seras revenu, quand tu seras né de nouveau, Pierre, quand tu retrouveras courage, quand tu seras à nouveau reconnecté, c'est toi qui vas encourager tes frères. Est-ce qu'on me suit? Donc, l'Ecclésia, le Sénat, le cabinet du gouvernement, l'Église, cabinet du gouvernement de Christ, l'Église, est un groupe secret à qui l'on a confié des renseignements secrets très importants qui touchent le fonctionnement du royaume. C'est un groupe de personnes très importantes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les sénateurs sont des gens qui ont des secrets. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ce sont des gens qui sont très très proches du chef de l'État. Donc ils ont accès à des secrets de l'État. Est-ce qu'on me suit? Donc c'est pas n'importe qui. Les membres du Sénat ont accès à des secrets et il n'y a que ceux qui sont dans le secret du pouvoir, qui peuvent comprendre certaines choses importantes qui se passent dans la nation. Est-ce qu'on me suit? Par exemple, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Mais les gens qui sont dans le secret, les gens qui sont proches du pouvoir, ils savent ce qui se passe. Quand on parle de certains crimes, quand on parle de certaines choses graves, de certains scandales qui arrivent dans le pays, les gens disent, oh, mais comment ça a pu arriver? Mais les gens qui sont dans le pouvoir, ils savent ce qui s'est passé et ils savent qui a fait ça. Ils sont dans le secret. Ils sont dans le secret. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'aller dans l'intimité de Dieu pour écouter la voix de Dieu, quand il y a certaines choses qui arrivent dans le pays, ils sont pareils que les non-croyants, c'est-à-dire dans l'ignorance. Quelles sont ces informations secrètes que Jésus-Christ donne à son cabinet, à son sénat? Il dit dans le verset 18, Matthieu 16, 18, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus-Christ a donné les clés du royaume aux membres de son cabinet, c'est-à-dire à toi et à moi. Ces clés, ces informations secrètes que Jésus-Christ nous donne, ne nous permettent pas d'accéder au royaume. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans le royaume. D'accord? Nous sommes déjà dans le royaume en tant qu'enfants de Dieu. Mais ces clés nous permettent d'ouvrir des portes pour débloquer des situations dans le royaume. Amen. Donc, Ces clés, ce sont des clés qui déverrouillent la puissance du royaume en notre faveur. Quand tu connais les clés et que tu les actives, tu déverrouilles quelque chose. Tu débloques quelque chose en ta faveur qui vient résoudre ta situation. Est-ce qu'on me suit? Donc, seuls les citoyens du royaume, les membres de l'Ecclésia, les membres du Sénat de Christ, possèdent les clés du royaume. Sans le statut de citoyen du royaume, tu ne peux pas avoir accès à ces secrets. Tu ne peux pas avoir accès à ces clés. Tu ne peux pas utiliser ces clés. Il faut être citoyen du royaume. Est-ce qu'on me suit? Et c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit opérer, nous aujourd'hui, grâce à ces secrets, grâce à ces clés que nous sommes censés connaître et savoir utiliser. C'est pour cela qu'on doit bouleverser notre environnement. Les gens doivent nous voir et doivent voir notre vie et dire, mais comment il fait en fait pour percer comme ça? Comment il fait pour opérer à une telle dimension? Pourtant, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres, lui. Mais comment il a fait pour être là? Comment il fait pour avoir autant de faveurs sur sa vie? Parce qu'il connaît les clés. Et il sait les utiliser. Donc, le statut de citoyen te donne possession des clés. Te permet de prendre possession des clés. Tu as maintenant des clés à ta disposition. Et maintenant, pour pouvoir les utiliser, il te faut quelque chose de très important. Il te faut ce qu'on appelle la clé des clés. Il y a une clé dans le royaume qu'on appelle la clé des clés. Est-ce qu'on peut dire la clé des clés? Cette clé dans le royaume des cieux, ce que je vous dis là est très important parce que Dieu m'a enseigné ça en fait. Cette clé, la clé des clés, est la clé qui te permettra d'utiliser toutes les clés du royaume. Et cette clé est appelée la connaissance. La connaissance. Dieu dit dans le livre de... Dieu dit, mon peuple se meurt à cause de son ignorance, à cause de son manque de connaissance. Mon peuple périt à cause de son manque de connaissance. Mon peuple périt. Dieu regarde son peuple, Dieu regarde ses enfants, et parce qu'il voit des enfants qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas l'instruction, qui ne connaissent pas comment utiliser les clés, ben ils souffrent. Ils souffrent. La clé des clés. La clé des clés, ce n'est pas de posséder les clés, parce que nous possédons déjà les clés en tant que citoyens du royaume, en tant que disciples de Christ. Christ nous a donné les clés du royaume. Et maintenant, pour pouvoir utiliser les clés du royaume, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Regardez ce que Jésus-Christ dit à ses disciples à ce sujet. Dans le livre de Matthieu 13, verset 10. Regardez ce que Jésus-Christ dit à son Sénat qui a accès au secret du royaume. Il dit, Matthieu 13, 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole aux gens? Parce que Jésus, quand il parlait tout avec des images. Donc, on ne comprenait pas toujours ce qu'il disait. Tu vois? Même les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait. Il parlait, et c'était profond ce qu'il disait. Et ça t'a mené à réfléchir, je dis, mais ce qu'il dit là, c'est vraiment intéressant, hein? Mais qu'est-ce qu'il a essayé de dire? Qu'est-ce qu'il nous enseigne là en fait? Et là, les disciples viennent le voir sur le côté, son Sénat. Eux, ils ont accès au chef de l'État. Donc, ils viennent voir le chef, et ils lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole, en image, aux gens du dehors? Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître quoi? Les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Le mot mystère vient d'un mot grec que l'on prononce mysterion. Le mot écrit ici, là, traduit en français mystère. Derrière, c'est un mot grec que l'on prononce mysterion. Et le mot mysterion en grec veut dire secret, ou encore connaissance divine, ce qui est caché, une information non révélée, une connaissance privée. Mysterion. Secret. Dans la version français courant que j'aime beaucoup, du même passage, il est écrit, les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent, pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles, en utilisant des images? Il leur répondit, et lisez bien, vous avez reçu qui? Vous. Vous avez reçu, vous, Vous, c'est qui? L'Ecclésia, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Et regardez ce qu'il rajoute, ça c'est très important. Il rajoute, car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pourrait lui rester. Pourquoi il dit celui qui a quelque chose recevra davantage? En fait, celui qui a le secret, il aura plus. Celui qui connaît la clé et comment l'utiliser par rapport à sa situation, c'est lui qui va percer. Amen. Et il dit, celui en revanche qui n'a rien. Et je souhaite que tu ne sois pas dans, que tu ne sois pas dans cette situation. Celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Parce qu'ils n'ont rien, c'est-à-dire parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Satan vient et il enlève. Vous ne vous rappelez pas de la parabole du semeur? La toute première image que Jésus-Christ donne dans la parabole du semeur. La parabole du semeur, le semeur a jeté la semence. Et en fait, il dit, la semence, dans la première partie, c'est la parole. Elle vient, elle tombe dans le cœur. Et la Bible dit que avant qu'il ne comprenne la parole, le diable vient et enlève. Avant qu'il n'ait compris. Pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce qu'il n'est pas instruit dans les secrets du royaume. Donc, il ne peut pas comprendre quand la parole arrive. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça dans l'église. Tu prêches la parole, mais ils ne comprennent pas. Et le diable vient, il enlève. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne grandissent pas et qui souffrent. Et il dit ensuite au verset 14, « Ainsi s'accomplit la prophétie exprimée par Ésaïe en ces termes, « Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. » Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui voient des choses spirituelles se passer sous leurs yeux, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. On continue. On continue. Et c'est là que beaucoup d'entre nous échouent. Parce qu'on n'a pas la clé des clés qui nous permet de connaître comment utiliser les autres clés. Alors on ne peut pas les utiliser. La connaissance est extrêmement importante à... C'est très important. Et il dit au verset 16, regardez ce que Jésus-Christ dit. Au verset 16, dans le même passage. On continue. Jésus-Christ rajoute au verset 16, quant à vous, vous c'est qui? Le Sénat, mon cabinet, mon église. L'église, quant à vous, heureux êtes-vous. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le plus petit dans le royaume, Jésus-Christ dit qu'il est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le plus petit dans le royaume a accès au secret, s'il cherche. Et les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas accès au secret. Mais vous, vous avez accès au secret. Donc, vous êtes des gens très privilégiés. Et il dit, beaucoup de prophètes auraient aimé voir ce que vous voyez, auraient aimé entendre ce que vous entendez, mais vous, mais ils ne l'ont pas entendu. Ils n'ont pas eu cette grâce-là. Et comment nous avons accès à ces vérités cachées? Comment nous avons accès à ces secrets? Eh bien, c'est très simple. Nous avons accès à ces secrets grâce à la personne la plus importante sur la terre et dans la vie du croyant, appelée Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et l'esprit de connaissance. Et c'est lui qui nous ouvre les yeux dans la parole et qui nous donne la connaissance pour qu'on puisse utiliser les clés. Le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut dire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et de connaissance. Et c'est lui qui ouvre nos yeux et qui nous amène à la connaissance des clés du royaume. C'est pour cela que la Bible ne se lit pas comme un livre normal. La Bible ne se lit pas avec le raisonnement humain. Mais la Bible se lit avec le Saint-Esprit. Avoir accès à la connaissance des secrets du royaume, c'est avoir accès à la sagesse. Et c'est quand on est en communion avec l'esprit de sagesse qu'on entre en contact avec la connaissance. Et c'est Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra quoi? Libre. C'est parce qu'on rentre en contact avec l'esprit de sagesse et de connaissance qu'on parvient à la connaissance de la vérité et c'est ça qui nous libère. Est-ce qu'on me suit? En cherchant le Saint-Esprit, tu cherches quoi? La sagesse. Tu cherches la connaissance de Dieu et les clés du royaume. C'est pour cela que la connaissance de Dieu est la clé des clés. Car avoir accès à la sagesse de Dieu te donne accès à la connaissance. Et c'est la connaissance qui libère. Oh! Et ce qui est extraordinaire, quand on y réfléchit bien, c'est que toute la sagesse de Dieu, toute la connaissance divine a été mise à la disposition de l'humanité dans un livre appelé la Bible. Un livre aujourd'hui que le diable essaie le plus possible de discréditer parce qu'il sait que si les gens entrent en connexion avec ce qui est écrit dedans, leur vie, ils sont libérés. Donc la Bible est la clé des clés car elle contient toute la connaissance dont nous avons besoin pour opérer dans le surnaturel du royaume. Et la Bible nous incite à chercher la connaissance et l'instruction. Regardez ce qu'il dit dans le livre de Proverbes, chapitre 13. Qui a écrit le livre de Proverbes? Eh bien, c'est celui qui a demandé à Dieu, quoi? La clé des clés. Salomon est quelqu'un d'extraordinaire et quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de sagesse. Salomon n'a pas demandé l'argent. Salomon n'a pas demandé le pouvoir ou la puissance. Salomon, quand il s'est tenu devant Dieu, il a demandé à Dieu, il a dit, Dieu, je ne veux pas la clé de la foi. Je ne veux pas la clé de la prospérité. Je ne veux pas la clé de la puissance. Je ne veux pas la clé de tel ou de tel. Seigneur, je veux la clé des clés. La clé qui me permet d'utiliser toutes les clés. Je veux la clé de la connaissance. C'est ce que je te demande. Et Dieu dit, tu es intelligent, petit. Tu as compris. C'est pour ça que Dieu dit, Salomon, à cause de ce que tu as demandé. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as demandé ni or ni argent. Non seulement je te donnerai la sagesse, c'est-à-dire la clé des clés, mais je te rendrai aussi riche. Tellement riche que même avant toi et ni après toi, personne ne sera riche comme ça. Parce que tu as demandé la clé des clés. Et en fait, la clé des clés, c'est ce qu'il faut demander à Dieu. Pierre dit dans le livre de Colossiens, je prie que notre Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous parveniez à quoi? À la révélation de sa connaissance. Parce que c'est la clé des clés. Et Salomon, qui possédait la clé des clés, nous dit à tout va dans le livre de Proverbes, et j'en ai pris deux. Le premier, c'est Proverbes 3, verset 13. Il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède quoi? L'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Tu veux être heureux? Va chercher la connaissance. L'instruction. Il dit encore dans le Proverbe 4, verset 7, il dit, voici le commencement de la sagesse. Il dit quoi ensuite? Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, pas avec une partie, mais avec tout ce que tu possèdes, acquiert quoi? L'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Tu veux être élevé, non? Exalte l'intelligence. Tu veux être élevé dans la vie? Cherche la connaissance. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. L'intelligence et la sagesse. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Est-ce qu'on peut dire amen?
Amen.
La clé des clés, la connaissance. La connaissance, c'est quoi? La clé des clés, appelée ici la connaissance, mais que Salomon appelle ici la sagesse. La sagesse est la clé des clés. La connaissance, c'est quoi? C'est l'information. L'intelligence, c'est la compréhension de cette information. Et la sagesse, c'est savoir comment utiliser cette information pour sa propre vie. Amen. Et quand on voit Jésus opérer à une dimension surnaturelle et accomplir autant de miracles autour de lui, on se rend compte que Jésus-Christ utilisait des clés. que les autres n'avaient pas. Les autres disent, ce sont des miracles. Mais Jésus-Christ lui dit, mais non, j'ai juste les clés. Je sais les utiliser. Je sais comment opérer avec. J'ai la sagesse. Voilà pourquoi on dit que Jésus est notre sagesse. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il est notre sagesse. Quand tu entres en communion avec Dieu, tu es avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Tu es avec lui un seul esprit. Tu es en communion parfaite avec l'esprit de connaissance, avec l'esprit de sagesse et d'intelligence. Et quand tu cherches, quand tu le cherches et que tu le trouves, tu parviens à la connaissance, tu parviens à l'intelligence, tu parviens à la sagesse. Et je paraphrase pour Jésus, pour répondre à tout ce que les gens disaient. Il disait simplement, ce ne sont pas des miracles que je fais. J'utilise simplement des clés. Je sais comment les mettre dans les serrures. Et elles débloquent la guérison, la prospérité, la paix et l'autorité. Regardez-moi faire et voyez le royaume à l'œuvre et comment il doit fonctionner pour vous. Mon Père vous a donné la connaissance des mystères, c'est-à-dire des secrets du royaume. Moi, par le Saint-Esprit en vous, je vous enseignerai comment les utiliser. Amen. Donc, le royaume, comme il a fonctionné pour Jésus-Christ, fonctionne aussi pour l'Église, dont toi et moi, nous faisons partie. Dans le livre de Jean, au verset 14, chapitre 14, verset 12, il est écrit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il fera aussi les œuvres que je fais. Et il fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez, voici la clé. Voici une clé qu'il donne ici. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Si je m'en vais au Père, j'envoie qui? Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne comment utiliser les clés du royaume pour être heureux dans notre vie. Sans lui, on ne peut rien faire. Et ici, la clé, c'est en mon nom. Chaque fois que tu pries dans le nom de Jésus-Christ, chaque fois que tu pries dans le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, je le ferai. Et c'est la clé qui ouvre les écluses des cieux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tout ce que nous demandons au ciel, tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons toujours le demander au nom de Jésus. Et chaque fois que nous prions, parce que souvent on entend les gens prier, mais ils ne disent pas au nom de Jésus. Ils font tout un tas de prières, mais ils n'activent pas le contenu de la prière avec la bonne clé, au nom de Jésus. Et là, dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 51, Jésus-Christ, après leur avoir enseigné ça, il dit, « Avez-vous compris tout cela ?» leur demanda Jésus. Et ils répondirent, « Oui, nous avons compris. » Et comme tout bon professeur, après la leçon, Jésus-Christ passe au test. Et Jésus-Christ utilise la situation des pains pour mettre à l'épreuve ses disciples. Et c'est avec ça que nous allons finir. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 26, il est écrit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, celui est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000. Amen. Donc ici, Jésus-Christ nous donne la clé. Jésus-Christ met les disciples en situation, et il leur dit, voici un test. Les gens ont faim. Qu'avez-vous? Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et eux, au lieu de demander à Jésus quelle est la clé que nous devons utiliser pour pouvoir résoudre ce problème, eux, ils disent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons que. Et Jésus-Christ, en les mettant à l'épreuve, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et eux, au lieu de se mettre à réfléchir, au lieu de se mettre à prier, ils font preuve d'incrédulité. Et en fait, les disciples se limitaient à ce qu'ils voyaient. Et Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit que Jésus-Christ prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Voici la clé ici. La clé ici que Jésus-Christ a utilisée pour pouvoir faire le miracle des pains et des poissons, c'était la prière d'action de grâce. La prière d'action de grâce. Quand tu es là, il n'y a rien. Tes yeux voient qu'il n'y a rien, mais tu rends grâce à Dieu. Tu dis, Seigneur, merci. Merci pour la nourriture et merci pour ma situation. Merci parce que tu es le Dieu qui, pour moi, a tous mes besoins. Merci pour la clé que tu me permets de comprendre et d'utiliser pour résoudre ma situation. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on va continuer. Mais ce message est tellement important que moi, je prie vraiment que nous tous, chacun d'entre nous, on puisse vraiment comprendre la portée de cette parole-là. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les clés du royaume des cieux. Merci pour la clé des clés, appelée la connaissance. Cette clé qui nous donne accès à toutes les clés du royaume. Seigneur, merci parce que aujourd'hui, nous nous rendons compte combien nous sommes privilégiés en tant que disciples de Christ, en tant qu'Ecclésia, en tant que ton Sénat, ton cabinet, en tant qu'Église, parce que tout simplement, nous avons accès. Nous avons accès au secret du royaume. Nous avons accès à l'intimité du chef de l'État. Nous avons accès à l'intimité, à ton intimité, et nous pouvons comprendre les mystères du royaume, ce qui n'est pas donné à ceux qui sont dehors. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui nous sommes privilégiés et nous te disons simplement merci. Parce que tu n'as pas regardé à nos fautes ni à nos transgressions, mais tu as regardé à ton grand amour, Seigneur. Et dans ton amour, Seigneur, tu nous as amenés à te connaître, à naître de nouveau et à être, Seigneur, dans ton intimité. Avoir accès au secret du royaume. Parce que tu dis, il vous a été donné à vous. Vous, mon Sénat, vous, mon cabinet, vous, mon Église, de comprendre les secrets du royaume des cieux. Seigneur, merci parce que non seulement aujourd'hui, tu nous accordes la grâce d'avoir accès à ces secrets, de posséder ces clés, de posséder ces informations que tu as mis dans ce livre que nous appelons la Bible, mais tu nous amènes aussi, Seigneur, grâce à la clé de la connaissance, à comprendre et à savoir utiliser les autres clés pour notre situation. Merci pour la clé de la prière d'action de grâce. Merci pour la clé, Seigneur, de la prière d'autorité. Merci pour la clé de la foi. Merci pour la clé de la générosité. Merci pour la clé de la semence. Merci pour toutes ces clés, toutes les clés du royaume qui nous permettent, Seigneur, d'ouvrir les cieux, Seigneur, et que le ciel ouvert, Seigneur, puisse déverser dans nos vies ta faveur, Seigneur, afin que nous puissions vivre, connaître la vie, Seigneur, en abondance. Parce que tu as dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais beaucoup d'entre nous ne vivons pas dans l'abondance. C'est parce que tout simplement, nous n'avons pas la connaissance, Seigneur, des clés. Nous n'avons pas la clé des clés qui est la sagesse, qui est l'intelligence et la connaissance et qui nous donne la compréhension et l'usage, Seigneur, des autres clés du royaume. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette parole qui vient illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions et que nous progressions, Seigneur. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute la louange dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Sois exalté, sois honoré, sois magnifié, sois élevé dans le nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu es. À toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.